Avec Julien, on va revenir un petit peu sur la chaîne de production, en fait, et la chaîne de publication. Julie est designer graphique et développeuse de feuilles de style. Depuis quelques années, elle s'est spécialisée sur la création de chaînes de publication légères, multi-supports et facilitant la collaboration. Elle contribue par ailleurs au projet PageJS, dont Hervé Le Crosnier a parlé tout à l'heure. Vous allez voir les ponts entre Julie et Hervé. Et donc, PageJS, tu vas nous en parler là. Et dernière petite chose, Julie a très récemment soutenu une thèse sur l'ergonomie et le design graphique au laboratoire Paragraphe, Université Paris 8 et Lens Lab à Paris. C'est ça?
Il y a exactement 21 jours, donc récent. Merci de m'accueillir. Du coup, oui, je vais un peu revenir sur la conception et les chaînes éditoriales. D'ailleurs, Hervé a déjà dit la moitié de ma présentation, donc bien mieux d'ailleurs. Ce qui va aussi me permettre, moi, d'aller un peu plus loin et de montrer aussi à partir d'un cas concret. Je vais vous dire d'abord. Repréciser quand même d'où je parle. Je suis designer graphique à la base, c'est ma formation avant de faire de la recherche, mais depuis, j'ai découvert le code, j'ai découvert la recherche. Ce que je dis souvent, c'est que je fais du design graphique, du code et de la recherche, parce que j'ai mis la casquette et je suis dans beaucoup de projets. Et je fais beaucoup, quand je disais je fais du design graphique, je fais essentiellement pour la publication, et essentiellement de la publication d'ailleurs scientifique, beaucoup. Donc, je vais vous parler de chaînes éditoriales qui sont multi-supports collaboratives, légères et modulaires et ouvertes, dont a un peu parlé déjà Hervé. Et pour ça, je vais vous présenter à partir d'un cas concret, qui est un catalogue que j'ai fait, qui est multi-support pour le Musée Saint-Raymond. C'est le catalogue des sculptures romaines de la Villa Chiragan. Donc c'est vraiment le musée qui est venu nous voir avec cette envie de faire une nouvelle façon de travailler, une nouvelle chaîne, de travailler le multi-support, etc. Donc il y a ce projet, il a été commencé en octobre 2018, 2 semaines avant de commencer ma thèse. Donc c'était vraiment intense. Ça a été publié en septembre 2019 pour la version web et en février 2020 pour la version imprimée. Donc ça a déjà quelques années. Donc la demande du musée, c'était ils avaient déjà vu une chaîne comme ça qui venait du Getty Museum à Los Angeles, et ils ont dit, on veut un peu la même chose, etc. Donc ils sont vraiment venus nous chercher pour ça, c'est pas nous qui avons proposé, hein. Je dis nous parce que c'est avec Antoine Fauchier. Il y a vraiment un catalogue imprimé, une version web, il n'y a pas d'e-pub, c'était pas dans la demande, et de toute façon c'était pas du tout adapté à la diffusion voulue, parce que vous allez voir, il y a beaucoup, beaucoup d'images, et ça repose essentiellement sur ça. Donc multi-support, parce qu'en effet, il y a la publication web, donc, que vous pouvez voir un peu ici, qui a vraiment été développée spécifiquement pour le musée. On a fait tous les gabarits avec eux. J'ai développé l'HTML et le CSS, le design. Enfin, c'est vraiment quelque chose de. On partait de vraiment zéro, hein. Il n'y a pas de... Voilà, on partait de zéro. On peut voir un peu les sculptures. Il y avait cette volonté d'intégrer aussi toutes ces images qu'ils ont. Chaque sculpture a 8 photos. Donc, il fallait zoomer, il fallait pouvoir faire une espèce de slider 360, même si c'est un peu faux parce qu'il n'y a que 8 images. Et surtout, c'était une publication à destination des scientifiques. Ça, c'est très important. C'est-à-dire qu'ils peuvent télécharger toutes les photos. C'est relié aux données de Wikidata, comme on va pouvoir voir. C'est important de le dire parce que le catalogue, donc voilà, ça c'est le petit slider au 360. À la fin, je leur ai dit, mais c'est pas du vrai 360, mais à partir du moment où on a dit ça, ils le veulent. Enfin, 380, pardon. Donc, on a tout fait pour. Et le catalogue imprimé n'était pas destiné au même public, c'est important de le dire. C'est-à-dire, c'était plutôt l'idée de faire un catalogue pour les gens qui sortent du musée, qui veulent en souvenir en fait de leur visite. Donc, c'est pas tout à fait les mêmes contenus. C'est-à-dire, vous avez vu, il y avait plusieurs chapitres dans la version imprimée, ils sont repris, il y a les introductions des chapitres. Mais par contre, dans la version web, chaque sculpture a une notice avec les 8 images, etc. Dans la version imprimée, ce n'était pas possible, sinon ça aurait été énorme. Donc, on a choisi par exemple 3 sculptures par partie, J'ai proposé, où j'étais très libre, là, ils m'ont laissé carte blanche, un cahier d'images à chaque partie pour un peu s'imprégner des sculptures en faisant des recadrages. D'ailleurs, ils étaient très contents. Ils disaient, bah, on n'a jamais vu nos sculptures comme ça, finalement, parce qu'ils sont habitués aux vues entières, etc. Donc, ça les a fait voir aussi autrement. Donc, ça, c'est par exemple un chemin de fer de la version imprimée. D'ailleurs, le catalogue, il passe. C'est pas du tout éco-responsable, le catalogue, je vous le dis direct. Parce que c'est, comme disait Hervé, c'est le deuxième livre produit avec PageJS que je vais vous présenter après. Et moi, je voulais prouver que c'était possible de mettre du Pantone, de faire la quadrille avec des belles images, parce que c'était les premiers trucs que me demandaient les graphistes quand je présentais PageJS. Donc, en fait, c'est un peu aussi une preuve de concept, ce catalogue. Bon, après, les papiers se sont certifiés, le format est adapté aux machines, mais il y a quand même des trucs. Voilà, il y a du Pantone, etc. Donc, cette chaîne, elle repose sur le principe du single source publishing, qui est simplifié ici, où ce principe, c'est qu'on a un seul contenu structuré. Je vous ai dit, les choses sont différentes. Enfin, le catalogue imprimé et le catalogue web sont différents, mais quand même, les contenus sont un peu les mêmes. C'est juste qu'on ne va pas les chercher au même moment, aux mêmes endroits. Donc, il y a quand même des contenus structurés communs. Et après, on produit l'HTML pour le web, l'HTML pour l'imprimé. Et on a notre site web et notre site imprimé. Et c'est du vrai single source publishing, c'est-à-dire on ne va pas transformer en prêt en je ne sais plus quoi pour mettre sur une design. C'est vraiment, on est tout le temps en HTML. Et ça, c'est possible grâce à cet outil qui s'appelle PageJS, et vous allez enfin savoir ce que c'est, sur lequel je travaille, qui est aussi dans ma thèse, et que je vais vous présenter en vidéo, parce que sinon je vais m'éterniser dessus, et elle est très efficace. Elle fait un peu moins de 3 minutes parce qu'il y a les crédits. Je vous laisse regarder. Voilà, j'espère que c'est plus clair pour vous maintenant. En tout cas, ça permet surtout, ça permet en réalité de créer le PDF, hein, parce que quand on imprime, c'est le PDF. et c'est les navigateurs web qui créent ce PDF. Donc, c'est un projet, comme c'est dit, qui est open source, entièrement libre. C'est financé par la Collaborative Knowledge Foundation, elle-même financée par la Shutterlove Foundation, qui est la personne qui a créé Ubuntu. Ça fait ce projet, on l'a commencé en 2018. Donc, quand je vous dis que le livre, quand j'ai fait le livre Chiragan, enfin, il y avait plein de bugs à l'époque, c'était encore au tout début. D'ailleurs, je remercie CF Édition d'avoir vraiment, de s'être mis vraiment dans PDF aussi, qui nous ont beaucoup aidés. Donc, voilà, ça c'était pour la partie imprimée et j'arrive pas à sortir. Ça, c'était au cas où je n'avais pas la présentation. Ça se présente comme ça. C'est vraiment une page web où on voit des pages, en fait, quand on est en train de développer, ce qui permet d'accéder aux outils de développement pour les designers graphiques. Et ça, c'est vraiment la bataille. Parce qu'il y a souvent les générateurs de PDF, on doit générer le PDF à chaque fois. Nous, non. On peut voir les choses. Enfin, c'est des petits détails de code hyper importants. C'était une chaîne aussi collaborative parce qu'on a, avec tout ça, en fait, vu que c'est que du code, que du texte, on a utilisé Git. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un système de versionnement qui est utilisé par tous les projets de programmation et qui permet à des personnes de travailler en même temps sur les mêmes fichiers de code, en plus ou moins en même temps. Et par contre, le musée avait, eux, ils savent pas, enfin, nous, on travaillait vraiment avec les fichiers parce qu'on sait coder, mais le musée, voilà, l'auteur et l'éditrice n'ont pas l'habitude du code. Donc, on avait relié Git à un outil qui s'appelle Forestry, qui est représenté ici. Où vous voyez, ils ont vraiment une interface avec l'entrée des données qu'on a définies nous-mêmes, etc. Et en fait, à chaque fois qu'ils faisaient save, ça faisait ce qu'on appelle un commit git, donc on pouvait récupérer. Donc on était vraiment en train de tous travailler en même temps. Ici, c'est un petit schéma qui symbolise à chaque fois que quelqu'un a transformé quelque chose sur justement ce répertoire git, sur ce code. Et vous voyez bien que moi, donc en design graphique, Antoine Fauchier, qui gérait un peu toute la chaîne technique aussi. Christelle Moulinet, qui était la coordinatrice éditoriale, et Pascal Capu, qui était l'auteur. On travaillait vraiment en même temps, sur les mêmes fichiers, tout le temps. Donc, le site évoluait en même temps que l'auteur écrivait. Enfin, il y avait vraiment... c'était vraiment de la collaboration, quoi. Le designer graphique n'est pas à la fin. C'est important de le dire. C'est léger et modulaire, on ne dirait pas comme ça, mais ça, c'est tous les outils qu'on a utilisés. C'est le single source publishing en plus compliqué. D'ailleurs, je vous l'ai montré en simplifié. Je dis léger et modulaire parce que c'est que des outils open source. Il n'y a aucun Adobe dedans, vraiment. Et après, je ne sais pas, peut-être l'imprimeur et peut-être le photographe ont utilisé Adobe, mais ça ne me regarde pas. Mais du coup, quand on dit modulaire, c'est-à-dire, par exemple, aujourd'hui, Forestry n'existe plus. On va utiliser peut-être un autre outil, je pense à Tina CMS. Enfin, à chaque fois, on peut remplacer des briques au fur et à mesure, en fonction de ce qui existe. Moi, aujourd'hui, je préfère, comme Jekyll, qui permet de créer le site web, je préfère, par exemple, Hugo, je pourrais remplacer. Léger aussi, il faut vraiment entrer dans la technique pour comprendre ce que ça veut dire éco-conception et léger. C'est-à-dire que quand je parle de Jekyll, de Hugo, ce sont des CMS qui gèrent le contenu et c'est statique. Ça veut dire que le site est généré une seule fois sur le poste du concepteur et après c'est du HTML, CSS qui est envoyé en ligne. Tandis que si vous utilisez par exemple WordPress, ça signifie qu'à chaque fois que le lecteur, le site se régénère. À chaque fois que vous lisez une page WordPress, le site se régénère. Du coup, ça, c'est un non-sens en fait au niveau de transmission des données. Aussi, on parle souvent des serveurs. Est-ce qu'il faut un serveur en France, à l'étranger ? Je tiens à dire aussi qu'il y a des services comme Netlify qui permet d'avoir des serveurs distribués. On ne possède aucun serveur. Je compare souvent ça à, oui, vous avez votre serveur en France, mais c'est comme si vous avez votre voiture quand même, vous avez votre espace. Alors que Netlify, c'est comme prendre des transports en commun. On est avec plusieurs personnes. Enfin, vraiment, il y a des choses hyper techniques à réfléchir aussi. Pour penser éco-conception. Mais ça, Hervé l'avait aussi déjà un peu dit. Une chaîne ouverte, il me reste 2 minutes, voilà, très bien. Une chaîne ouverte, comme je vous dis, tout est open, non seulement dans les outils, mais aussi c'est une volonté d'open access. En fait, ils sont venus nous voir aussi, le musée, parce que ça dépend de Toulouse, et la mairie de Toulouse avait une volonté d'open data qui venait de se mettre en place. Donc, ils voulaient aussi que toutes leurs données soient ouvertes, que ce soit relié à Wikidata. On voit un petit lien là qui ramène aux données. Tout est en open access. Enfin, vraiment, c'est open dans tous les sens du terme. En fait, on peut tout télécharger, les images, à son Creative Commons, etc. Et pour terminer, je voulais faire un petit point vocabulaire, parce qu'il y a souvent des incompréhensions. entre, par exemple, reproductible et spécifique, c'est-à-dire qu'on a vraiment entièrement codé la structure du site parce que c'était adapté à ses contenus, aux besoins de cette publication. Pareil pour les feuilles de style. On peut reprendre tout est en ligne et ouvert, mais en fait, c'est un non-sens parce que c'est vraiment adapté à ses contenus. Par contre, c'est reproductible. On peut refaire la même chaîne, prendre des bouts de code pour adapter, etc. Donc, c'est sûr, il y a pas mal d'adaptations à faire, mais c'est un peu bête de reprendre tel quel. D'ailleurs, hier, j'étais en discussion avec un client qui, justement, a repris la chaîne entièrement. Il a tout installé et il m'a dit bah, « maintenant, je veux d'autres feuilles de style adaptées à mon contenu, etc. » Donc, ça montre quand même l'intérêt. Après, automatisation vs programmation, moi, je me définis vraiment comme une artisane de la publication. Je sais qu'Alexandre aime bien ce terme aussi, « artisan du libre ». Parce que chaque projet est unique et a besoin de mise en page web et imprimée spécifique. Ce n'est pas de l'automatisation. C'est vraiment quelqu'un a pensé ses feuilles de style. C'est généré automatiquement le site, mais ce n'est pas de l'automatisation dans le sens on met n'importe quel contenu et tout va se générer tout seul, quoi. Et la dernière que je voulais dire, c'est parler de standardisation vs créativité. Je suis perdue dans mes notes. On utilise des standards, les standards du web, mais c'est très important d'utiliser des standards parce que justement, ça permet de partager des contenus. C'est la force du web, en fait. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'est pas créatif. Et ça, enfin, le web garde vraiment l'accessibilité. La créativité, ça peut être du côté des feuilles de style. Et j'insiste sur le fait qu'aujourd'hui, on parlait tout à l'heure que hier, c'est pas pareil qu'aujourd'hui. CSS, c'est devenu tellement puissant. Enfin, quand j'ai commencé CSS, moi, il y a 5 ans, ça n'avait rien à voir avec aujourd'hui. On peut faire des choses folles et créatives. Enfin, moi, je me sens limitée aujourd'hui par une dizaine, hein, comparé à CSS, pour vous dire. Et on peut faire des choses très complexes. La Villa Chiragan le prouve, c'était il y a déjà 4 ans, quand même, ce projet-là. Mais voilà, vous pouvez aller voir sur le site. Et c'est déjà un vieux projet, en fait, au niveau du web. Et je voulais faire le clin d'œil à Hervé, mais il est parti. Parce que du coup, le Louvre, c'est parce qu'il voulait pareil que la Villa Chiragan. Et aujourd'hui, Getty Museum a vu le Louvre et ils veulent pareil que le Louvre. Donc en fait, la boucle est bouclée comme ça. Et tout le monde s'inspire. Et c'est aussi, on parlait des personnes et que c'est avant tout des personnes. Et c'est vrai, on est des personnes qui se côtoyons, qui travaillons ensemble, qui améliorons ensemble PageJS, c'est très important. On est encore petits groupes quand même. Faut pas se concentrer uniquement sur les outils, il faut se concentrer aussi à la collaboration, les relations. Sinon, on ne fait rien tout seul et on ne pourra jamais quitter Adobe, en fait. Donc voilà, et c'est aussi remettre les choses à l'échelle. C'était une dernière chose par rapport aux questions qu'il y avait eu avant. En fait, créer un site web en HTML et CSS pur, bien pensé, statique, ça n'a rien à voir avec le fait de, par exemple, déjà utiliser un WordPress ou juste avoir un compte Twitter. En termes d'impact, c'est assez ridicule, en fait, créer un site web en pur web. Et d'ailleurs, aujourd'hui, il y a des nouvelles technologies comme les Progressive Web Apps qui permettent de mettre des caches. Enfin, vraiment, le web, pour moi, c'est le début du numérique. C'est ça aussi, on englobe tout dans le numérique, hein. Mais le web, c'est le début, mais c'est aussi l'avenir pour moi. C'est vraiment revenir au web pur. Voilà.